Notre Père bien-aimé, nous voulons encore nous incliner devant ta personne, parce que, comme nous l'avons dit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi pour transmettre ta parole, mais mes frères et sœurs ont besoin aussi de toi pour la recevoir, pour la comprendre. J'ai besoin de toi pour la transmettre de la bonne façon, sans tronquer ta pensée. Et c'est pourquoi nous te demandons de couvrir ces moments par ton Saint-Esprit, dirige-les, et aussi nous remettons entre tes mains nos âmes pour que tu nous purifies de toute iniquité grâce au sang de l'agneau encore ce matin. Même s'il y a des choses, des péchés que nous ignorons, nous voulons qu'ils soient couverts par le sang de Jésus, afin que nous puissions bien comprendre ce que tu as à nous dire. Et c'est en son nom, ton Fils Jésus, que nous te prions de diriger ces moments. Amen. Alors aujourd'hui, le message s'intitule « Une véritable révolution ». Assurez-vous, je ne vais pas vous parler de cette révolution-là. Cette femme représente la liberté, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et ce matin, nous allons explorer une lettre que je redécouvre en ce moment, la lettre aux chrétiens de Rome. Rome qui a été le centre du monde pendant longtemps, n'est-ce pas ? Et nous allons aborder deux textes, enfin un verset au chapitre 7, le verset 6, et aussi chapitre 8, verset 2. À 17. Donc voilà, ça marche. Alors si on me traitait de révolutionnaire, est-ce que ça vous est arrivé qu'on vous traite de révolutionnaire ? Moi, on m'a traité, quoi donc ? Il y a un monsieur chilien, un réfugié qui m'appelait... Ah oui, il me disait, tu es fanatique. Bon, je lui en voulais pas. Il voulait pas accepter le Seigneur dans sa vie, donc bon, je lui pardonnais volontiers. Mais je ne serais pas particulièrement fier si on me traitait de révolutionnaire par rapport à la Révolution française, compte tenu des horreurs commises au nom de la Révolution française. On en fait parfois un événement positif, mais il suffit d'examiner l'histoire pour voir que c'était loin d'être la solution idéale. Alors les règlements de compte à coups de guillotine, hein, entre les uns et les autres, les uns dominant les autres et ensuite étant dominés, éliminés. Alors cela ne veut pas dire qu'une révolution n'était pas nécessaire. Sortir de l'ancien régime esclavagiste, de la monarchie, au profit de la République, qui n'a rien de parfait d'ailleurs, mais aussi cet ancien régime qui était précédé de la féodalité avec ses seigneurs qui avaient pouvoir de vie et de mort sur leur sujet. Pour un oui et pour un non. Et surtout la misère qui leur était imposée. Vous constaterez avec moi que la misère n'a pas disparu. Ni dans notre pays, ni dans les pays en voie de développement. Rappelons-nous les propos de l'entourage d'une reine. Il paraît que c'était pas Marie-Antoinette qui a dit ça. Bon, je suis pas un historien. Mais que demande le peuple juste avant la Révolution ? Ils n'ont plus de pain, mais qu'ils mangent de la brioche. Là, on voit le fossé, hein, entre les uns et les autres. Mais il faudra attendre quand même 1848 pour le décret sur l'abolition de l'esclavage. 1848, presque un siècle après la Révolution française. Alors, depuis, que de maltraitance, que d'esclavagisme subtil dans nos démocraties modernes, que de pression et que de harcèlement, on entend ça tous les jours. Que de gens sont poussés au suicide, que de gens sont pressés de toute manière dans leur monde du travail. Si ça, c'est pas un nouvel esclavagisme, n'est-ce pas ? Mais le plus grand des esclavages, et vous serez d'accord avec moi, j'espère, c'est l'esclavage du péché. Et toute cette misère, tout ce besoin de révolution, de changement, l'origine unique de tout cela, c'est l'esclavage du péché. Alors que Dieu a tout accompli à Golgotha pour nous libérer de cet esclavage. Mais vous serez d'accord avec moi que le monde ne s'améliore pas et qu'aujourd'hui, quand on allume le bouton de la télévision, nous sommes les témoins que le péché règne dans ce monde et que parfois le péché règne aussi dans notre cœur de chrétien. Ça fait partie de notre combat quotidien. Alors, nous allons parler ce matin de la plus grande des révolutions. Pas celle qui était sur ce tableau tout à l'heure. La plus grande révolution de tous les temps, et d'après vous, quelle est-elle? L'évangile. J'ai entendu la naissance de Jésus. Le changement de nos vies. D'autres idées? Ce n'est pas la Révolution française, c'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège, mais c'est celle de Dieu. Et la Révolution de Dieu, elle tient en trois points, si on veut la schématiser pour nous, humains, limités. D'abord, un changement de régime, alors ce n'est pas le passage de la féodalité, de la monarchie à la République, c'est autre chose. Ensuite, le changement de statut. L'homme peut changer de statut, UT, hein, pas UE, et le changement de comportement. Quand nous voyons aujourd'hui les comportements des Dalton à Bronze sur leur moto et leur costume à rayures, défiant les forces de l'ordre, le comportement de ces maris qui violentent leurs femmes, le comportement de ces élèves d'école primaire qui harcèlent leurs camarades, n'y a-t-il pas un besoin de comportement? N'y a-t-il pas besoin d'une révolution? Et en dehors de Dieu, vont-ils pouvoir vivre leur révolution? Peut-être avez-vous gardé quelques illusions. Par exemple, vous améliorer par vous-même et devenir meilleur. C'est ce qu'on nous ferait croire dans ce monde. Nous allons sauver la planète. Nous allons devenir meilleurs. Nous allons produire moins de CO2. C'est ce qu'on nous fait croire tous les jours. Or, on ne peut pas s'améliorer si on est esclave du péché. Si on a une chaîne au pied, comment pouvez-vous faire pour avancer dans la vie avec l'esclavage du péché? On peut avoir comme illusion vivre une religion pour apaiser nos consciences. Moi, quand j'allais voir le prêtre autrefois, quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un de bien. J'allais me confesser. J'allais confesser mes péchés au prêtre et il m'accordait son absolution. Et quand je ressortais, je me sentais tout léger. Je ne connaissais pas Jésus-Christ, je ne connaissais pas le message de la croix, je n'avais pas compris le sang de l'agneau, mais j'étais tout léger. Comme quoi les sentiments trompent, vous êtes d'accord? Alors, comme illusion, on peut aussi obéir à un système de commandements pour être juste. D'ailleurs, les Juifs avaient l'Ancien Testament, on pourrait dire, nous on a le Nouveau. Mais les Juifs ne se sont-ils pas cassés les dents sur la loi de Dieu? Et aurions-nous l'illusion de ne pas nous casser les dents sur le Nouveau Testament? J'ai essayé de retrouver une phrase de Billy Graham dans un de ses livres, Le Secret du Bonheur. C'était le livre que j'ai lu au moment de ma conversion, parce que j'avais envie de bonheur. C'est légitime, hein? Il y a bien d'autres choses au-delà du bonheur. Mais il y a une phrase où il dit que la personne qui a mis en pratique le sermon sur la montagne n'a jamais existé en dehors de Jésus. Ni vous, ni moi. Seul Jésus pouvait respecter le sermon sur la montagne. Rien que ça. Alors je ne vous dis pas le Nouveau Testament. Par mes propres forces, je peux avoir l'illusion d'être capable de plaire à Dieu. Faire ceci, ne pas faire cela, je ne suis pas si mal finalement. Je vais au culte tous les dimanches, je sers l'église ici ou là, j'aime mes frères et sœurs. Bien. Je peux avoir l'illusion que ça suffit, n'est-ce pas? je gère. J'entends ça souvent chez les jeunes, même mes enfants, enfin mon fils en particulier, que des fois quand je lui donne un petit conseil, il me répond, papa, je gère. Bien, fiston. Très bien. Puis quelques temps après, il revient, dis donc, papa. Je gère, je maîtrise la situation. Et nous, les plus vieux, nous pourrions dire, j'ai de l'expérience, j'ai de l'âge. Alors, vous n'allez pas me raconter que la grand-mère, elle danse bien. Je connais la vie, j'ai eu des épreuves. On pourrait être dans cette illusion-là, n'est-ce pas? Je me sens fort, donc je suis fort. Illusion. Autre illusion, je me sens faible, donc je suis faible. Non, pas forcément. Vous vous rappelez que le Seigneur a dit comment il accomplit sa puissance dans notre faiblesse. Illusion de faiblesse, illusion de force. Peut-être vous êtes dans une autre situation, le péché vous accable. Vous ne voyez pas de progrès dans votre vie ou dans l'Église. Les exigences de Dieu vous écrasent parce que vous essayez de lui plaire. En respectant le Nouveau Testament, en respectant l'Évangile, en respectant les commandements de Dieu. Et vous vous dites, mais rien qu'aimer mon prochain, mais c'est complètement impossible. J'en peux plus, Seigneur. Les besoins autour de vous sont trop nombreux. Par où commencer? Si on commence à dire, je dois respecter le Nouveau Testament, mais j'y passerai 24 heures par journée, sans dormir ni manger, c'est impossible. Comment est-ce que je peux discerner ce qu'il faut faire de la volonté de Dieu dans chacune de mes journées? Si je dois parler de l'Évangile à tous les gens que je rencontre dans la journée, je ne vais même plus faire mon travail. Et mon patron, il va me mettre dehors. Vous voyez? Que d'illusions! Vous êtes envahi peut-être par le stress et l'inquiétude. Un rien vous angoisse. Moi, le Seigneur, il m'a encore interpellé ces jours en préparant ce message. Mais je m'inquiétais pour un tas de trucs. Mais tu me fais confiance ou pas? N'est-il pas écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes. Mais combien de fois on tombe dans le panneau? De nous inquiéter au lieu de remettre le souci entre les mains du Seigneur. Votre vie est parsemée d'échecs. Vous savez, quand on arrive à un certain âge, on commence à faire un peu le bilan. Et le bilan, il n'est pas toujours très flatteur. On se dit, oh là là, mais c'est pas possible. 40 ans comme ça, j'en suis là encore. Dieu vous semble loin parfois, inactif et sourd à vos prières, n'est-ce pas? Ça vous est sûrement arrivé. Mais savez-vous que nous avons changé de régime? Pas de régime végétarien ou végétalien ou vegan ou... pas ce régime-là. Hein. Romains 7, verset 6 nous dit « Mais maintenant, ah, ce mot-là, à partir d'aujourd'hui, ça doit changer votre vie. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi de Dieu, la loi de Dieu, la loi de Moïse. Car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte... que nous servons sous le régime nouveau, le nouveau régime de l'esprit. Et non sous le régime périmé de la loi écrite, littéralement, il est question de la vétusté de la lettre. La vétusté, elle est périmée. Et ça nous rappelle que Paul disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce matin, par ce message, il se pourrait qu'ici ou là, par maladresse, par manque de sagesse, une de mes paroles vous tue. J'espère que non. Vous viendrez me voir à la fin si vous n'êtes pas déjà mort. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous avons été libérés. Nous avons changé de régime. En Christ, nous sommes libres, mes amis. Est-ce que vous réalisez ça? Vous êtes des hommes et des femmes libres en Christ, vivants, de nouvelles créatures habitées par le Saint-Esprit, un compagnon de tous les instants. C'est une expression que vous entendrez souvent cette année, à travers mes prédications et mes études. Conséquence de ce nouveau régime, Romains 8, verset 2 nous dit la loi de l'esprit. C'est plus la loi de Moïse, c'est la loi de l'esprit. C'est le nouveau régime. La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libres. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. C'est encore la lettre aux Romains qui nous dit ça. Parce que vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Et la mort ne peut pas nous anéantir à jamais. Certes, on l'a rappelé tout à l'heure, notre corps de chair un jour va tomber à la poussière. Mais on verra tout à l'heure ce qu'il va devenir, ce corps. Pourtant, tous les jours, nous voyons cette loi du péché agir en nous. Ce qui a fait dire à l'apôtre Paul, dans ce chapitre 7, à un moment donné, vous connaissez bien, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ que la victoire est assurée, n'est-ce pas ? Romains 8, verset 3, « Car ce qui était impossible à la loi, pourquoi ?» Parce que la nature humaine la rendait impuissante. Pourtant, la loi de Dieu, la parole de Dieu, elle a créé l'univers, elle a créé le monde. Vous imaginez que notre petite nature pécheresse la rende impuissante, inefficace. Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable ou plutôt ressemblante à celle de l'homme pécheur, parce que Jésus était sans péché, faut-il le rappeler, et que sa nature n'était pas semblable à la nôtre. Elle était ressemblante, parce qu'il avait deux pieds, deux jambes, un corps, une tête, mais il était sans péché. Et c'est ce qui lui a permis de mourir à notre place. Notre nature déchue nous empêchait de respecter la loi et d'être juste, c'est-à-dire sans péché. Le sang de Jésus sur la croix est venu à bout du péché, il nous a rendus justes. Si nous sommes justes, ça n'est pas parce que nous cherchons à plaire à Dieu. Si nous sommes justes, ça n'est pas parce que nous sommes chrétiens, si tant est que nous soyons évangéliques. Ça n'est pas parce que nous prions des heures et des heures tous les jours. Ça n'est pas parce que nous lisons notre Bible des heures tous les jours. Si nous sommes justes, c'est uniquement à cause du sang de Jésus. J'espère que ce matin, c'est clair dans nos cœurs. Romains 8, verset 4, « Ainsi, ça c'est un verset que j'aime bien, la justice réclamée par la loi. » Vous imaginez ce que c'est, la justice réclamée par la loi, c'est-à-dire satisfaire à 100% à tous les commandements de Dieu. Si on pêche contre un, on est foutu. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, tiens, qui vivons non conformément à notre nature propre, notre vieil homme, comme a rappelé Jérémie, mais conformément à l'esprit. Fini les yakas, les faucons, fais pas ci, fais pas ça. Ce régime-là, il est terminé. C'est terminé. Et parfois, nous chrétiens, nous retombons dans cette tendance. Les Galates, c'est ce qui leur est arrivé. Ils sont retombés dans cette tendance. Fais pas ci, fais pas ça, mange pas ci, mange pas de ça, tata, le Seigneur veut pas ci. Ça, c'est l'ancien régime. Ça, c'est la servitude. Ça, c'est le système féodal. C'est une monarchie du péché sur notre vie. Nous avons changé de régime grâce à Jésus-Christ. La justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons conformément à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui doit présider nos vies et nous conduire vers la sainteté. Il s'est engagé à le faire et il va le faire. Vous serez sanctifiés tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Ou l'esprit, l'âme et le corps, plutôt dans le texte. Ça, c'est une certitude. Vous allez rentrer dans la présence de Dieu, vous serez totalement sanctifiés, totalement purs. C'est l'Esprit Saint qui nous permet d'accomplir la justice réclamée par la loi de Dieu. Et j'aurais envie de dire, pour être plus précis, que ce n'est que l'Esprit Saint, pas nos petits efforts humains. Notre nature humaine aurait-elle changé, à votre avis ? Allez, je lance les enchères. Notre nature humaine a-t-elle changé? Pardon? On a une nouvelle nature, mais quand je parle de notre nature humaine, c'est la vieille, évidemment. Non, bien sûr, elle n'a pas changé. C'est un peu comme un animal sauvage domestiqué. Tôt ou tard, son instinct revient. Qui a un chat dans l'église? Nous, on n'en a pas, mais nos voisins en ont deux. Ils viennent souvent chez nous. On les observe. Personne n'a un chat? Ah, oui, super. Vous avez remarqué le chat? Alors, le chat, il a un nouveau régime alimentaire aujourd'hui. Il mange des croquettes, il boit de l'eau, il demande un coussin et un radiateur, et il est heureux. Bon, ça, c'est son nouveau régime. Mais son ancien régime, c'était quoi? Les souris, les oiseaux. Et votre chat, quand vous le mettez dehors dans votre jardin, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vient chercher les croquettes? Il a mangé des croquettes, il est rassasié. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va chasser les oiseaux. Alors moi, ça, j'aime pas. J'ai dit, j'aime bien les chats, j'aime bien les oiseaux, je ne veux pas qu'il mange mes oiseaux. Donc, attention à lui. Mais il retombe sous l'ancien régime. Il retombe sous son instinct naturel. Pour lui, c'est naturel de choper un oiseau. Il lui a rien fait, cet oiseau. En plus, il a le ventre plein. Le chat. L'oiseau, peut-être aussi. Eh ben, le chat, c'est plus fort que lui. Il revient à son état instinctif. Alors, on en rigole, nous. Mais nous, c'est exactement pareil. On est peut-être sous le régime des croquettes, si chrétienne qu'elle soit. Mais on revient tout le temps à l'ancien régime. On a toujours cette propension à revenir à l'ancien régime. Et cette nature humaine, elle rend impuissante la loi de Dieu. Nous venons de le voir au verset 3. Je sais pas si on réalise ça, que notre nature humaine, déchue, pécheresse, était un obstacle. Et Dieu, mais quelle patience! Il a utilisé tout l'Ancien Testament, toute la vie du peuple juif, pour nous démontrer cette vérité-là. Ah, moi, j'aurais pas eu cette patience, je vous dis tout de suite. Patience infinie. La loi a été un précepteur pour nous amener à cette démonstration que notre nature humaine rend impuissante la loi de Dieu, si tant est que cette loi, elle est parfaite, elle est irréprochable. Alors Romains 8, verset 6 nous dit, de fait, la nature humaine tend vers la mort. Elle a cette propension à nous conduire vers la mort. Pourquoi les gens y roulent comme des fadas avec leur voiture, au risque de se prendre un arbre et de quitter ce monde? Si la nature pécheresse, orgueilleuse, vaniteuse, ne nous pousse pas à de tels actes insensés, j'en entendais un ce matin encore, qui, avec une voiture qui vrombissait comme aux 24 heures du Mans, il faisait d'abord un bruit épouvantable, je me suis dit, mais c'est dangereux ça, de faire ce genre de choses. La nature humaine tend vers la mort, vers le péché, naturellement, vers les voies contraires à la volonté de Dieu, par instinct, comme notre cher petit chat. Romains 8, verset 7, « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. » Ça, même nous, hein. Je ne veux pas vous demander des exemples, mais vous vous surprenez peut-être des fois à dire au Seigneur, hein. Puis au bout d'un moment, vous inclinez la tête. Mais la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas. Ça n'est pas sa nature de se soumettre à la loi de Dieu. Elle s'est soumise à Satan quand il est venu tenter Adam et Ève, et nous, quand on est tenté, c'est exactement la même chose. Et si nous imaginons un instant que nous aurions fait mieux qu'Adam et Ève dans le jardin, nous nous trompons. C'est une illusion de plus que nous pourrions ajouter à la première liste. Nous ne ferions pas mieux. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, cette nature humaine, et l'Écriture nous dit qu'elle n'en est même pas capable. Vous voyez la patience de Dieu qui a voulu nous démontrer ça à travers l'expérience du peuple d'Israël. Et nous, des fois, on dirait, on va faire mieux que les Juifs, vous allez voir. Oui, regardez l'Église depuis 2000 ans. Regardez-la bien dans les yeux, l'Église, depuis 2000 ans. Et vous verrez que Dieu a raison. La nature humaine est incapable de respecter la volonté de Dieu. Et c'est pas plus brillant que la Révolution française. Et ce qui est brillant, c'est tout ce que Dieu a réussi à faire malgré ça, avec le reste des enfants de Dieu authentiques. qui sont restés fidèles à leur Seigneur et à leur Sauveur. Alors nous avons été crucifiés avec Christ, mais notre vieil homme bouge encore. Oui, nous avons été crucifiés avec Christ, notre vieil homme. Et là, il remue encore des moments. Et parfois, il faut lui mettre le pied dessus pour lui dire non. Ça, c'est l'ancien régime. Je n'ai pas envie de me mettre sous l'ancien régime. Alors nous sommes incapables de mettre en pratique la parole de Dieu par nous-mêmes. J'espère que nous en sommes parfaitement convaincus. Romains 8, verset 8, « Or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » Quel malheur de voir encore aujourd'hui, 2000 ans après la venue de Jésus-Christ, qu'il y a encore aujourd'hui des religions dans ce monde qui imaginent pouvoir plaire à Dieu en obéissant à un livre par leur propre force. Et c'est inimaginable. Êtes-vous convaincu de cette réalité, que votre vieille nature, vous avez beau faire des efforts, vous avez beau y mettre tout votre cœur, vous avez beau... Non, c'est pas elle qui va accomplir les bonnes choses que Dieu veut dans votre vie. Je vous rappelle Romains 8, 4 que nous avons déjà vu, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. C'est un nouveau régime, c'est une nouvelle façon de vivre. Soyez rassurés, vous ne pourrez jamais améliorer votre nature humaine. C'est peine perdue, inutile de vous torturer à ce sujet. Vous serez toujours déçus, toujours frustrés, toujours découragés. En revanche, par l'Esprit Saint, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors ça, oui, nous pouvons tout, à condition d'être dépendants de lui et de le laisser diriger. Alors Dieu a changé le régime, nous l'avons vu, et il a changé aussi notre statut, UT, pas UE. Non seulement nous avons changé de régime, et même si notre vieil homme nous joue des tours, nous avons tout, nous avons un tout nouveau statut en Christ. Nous sommes libres, libérés de tout esclavage, même si certains essaient de nous mettre la grappin dessus, de vous manipuler, de vous culpabiliser, de vous faire faire ce qu'ils estiment bon. Vous êtes libres en Christ et ce ne sont pas les autres qui doivent diriger votre vie, c'est le Saint-Esprit. Et quand je parle de ça, c'est des choses très concrètes que nous pouvons vivre entre nous. Ok ? Et ici, je ne parle pas des autorités, parce que j'entends déjà quelqu'un qui va me dire « Ah, mais je suis libre, donc je n'obéis pas aux autorités qui me demandent ceci ou cela. » Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais nous sommes libres. Et remarquez bien combien de gens dans votre entourage essaient de vous manipuler parfois. Sans avoir forcément de mauvaises intentions, mais c'est l'instinct qui revient. C'est le chat qui revient à l'oiseau. Et on voudrait vous faire faire ci et vous faire faire ça. Et non, non. C'est l'Esprit Saint qui va diriger. C'est l'Esprit Saint qui va me dire si je dois faire ou pas. Après, la personne qui vous exhorte, elle peut être aussi inspirée. Donc, si ça coïncide, il n'y a pas de souci, hein. Si la personne vous exhorte et puis vous vous rendez compte que c'est la volonté de l'Esprit, ok, j'avance. Mais c'est l'Esprit Saint qui valide. Ça n'est pas une personne qui fait pression sur vous. Romains 8, 14, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Du statut d'esclave, nous entrons dans la famille de Dieu. Romains 8, 15, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous entendez souvent notre chère sœur Christine parler à son père en disant « Abba, Papa ». C'est tout à fait ça. Du statut d'esclave, nous devenons enfants du Père. Jésus n'a pas honte de vous appeler frère, nous dit le livre des Hébreux. C'est incroyable ça. Jésus est notre frère. Romains 8, 17, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Et chacun sait combien, quand nous sommes chrétiens, combien de souffrances spirituelles en particulier nous endurons et soyez rassurés, c'est aussi pour le nom du Seigneur que vous traversez parfois des moments difficiles et qu'un jour vous partagerez aussi sa gloire. D'ailleurs, un peu plus loin dans Romains, il est dit que les difficultés présentes n'ont rien à voir avec la gloire à venir. Alors nous, boum, on est loin de ça encore, hein. Rappelons-nous aussi que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Oui, mais notre vieil homme est toujours là. Romains 8, 9 « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » On voit bien que on ne peut pas être chrétien sans avoir l'esprit de Christ et on ne peut pas être victorieux dans sa vie quotidienne sans l'esprit de Christ. Alors tout cela nous amène, après un changement de régime, un changement de statut, à un changement de comportement qu'on pourrait appeler une repentance perpétuelle, parce que permanente. Parce que la repentance, c'est la métanoïa, c'est le changement de pensée, c'est le changement de comportement. En effet, Dieu nous laisse toujours le choix. Comme il a laissé le choix à Adam et Ève, il nous laisse le choix aujourd'hui. Mais lui, il a changé de régime, il a changé de statut, et il attend de nous un changement de comportement. Mais nous sommes forts de notre nouveau statut et forts de la puissance du Saint-Esprit en nous. Ça, c'est toute la différence. Et si nous n'avions pas ça, nous ne pourrions pas être exposés à ce défi de changer de comportement. Parce que notre nature nous rendrait impuissants. La parole de Dieu ne changerait pas. Nous ne pourrions pas changer de comportement sans le Saint-Esprit en nous. Et nous avons donc le choix entre deux scénarios, selon ce chapitre 8. Se conformer à notre vieille nature ou se conformer à l'Esprit-Saint, c'est-à-dire marcher soit selon notre vieille habitude ou marcher selon l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un apprentissage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, nécessairement. D'abord, se conformer à notre vieille nature, l'Écriture nous explique au chapitre 8, verset 5, que c'est se préoccuper des réalités de notre vieille nature. Alors j'en ai cité quelques exemples qui sortent d'une traduction un petit peu plus complète, mais vous n'êtes pas surpris par ça, c'est ses mauvais désirs, sa volonté égoïste, les impulsions de notre nature déchue, l'indépendance par rapport à l'Esprit de Dieu. Finalement, l'Esprit de Dieu, oui, je l'ai, je suis né de nouveau, mais est-ce que j'en ai tant besoin que ça? Des fois, a-t-il beaucoup d'importance, l'Esprit de Dieu, dans notre vie, n'est-ce pas? Ça montre une indépendance par rapport à Dieu. Nos intérêts bassement humains, nos plans et nos fantasmes, nos instincts primaires et nos penchants naturels. Ça, si tout ça remplit notre vie, alors effectivement, il nous faut peut-être changer de braquet au niveau de notre marche avec le Seigneur. Et puis, se conformer à l'Esprit-Saint, c'est placer toute notre conduite sous le contrôle de l'Esprit-Saint en nous. Ses suggestions, ses impulsions, ses motivations, ses inspirations en accord avec la parole de Dieu, ses injonctions, être à son écoute. Rappelez-vous les églises de l'Apocalypse, Joël a rappelé une lettre à l'église d'Éphèse, et dans chaque lettre, vous avez cette petite phrase que l'église est... Enfin, qu'il faut écouter ce que l'Esprit a à dire aux églises. Est-ce que nous sommes en tant qu'Église à l'écoute du Saint-Esprit? Chercher sa direction et sa présence et laisser produire en nous le vouloir et le faire selon le bienveillant dessein de Dieu. Alors c'est un choix capital parce qu'il a des incidences. Romains 8, verset 13, « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Alors ici, il ne s'agit pas du mépris du corps. Il y a eu toute une hérésie dans le monde chrétien au début des premiers siècles, en voulant mépriser le corps. Pas du tout. Le corps est une créature glorieuse de Dieu, à l'image de Dieu. Et on n'a pas lieu de mépriser ce corps. Il ne s'agit pas non plus de mortification. Parce que le mot corps, on peut mettre à la place le vieil homme, notre vieille nature, notre nature instinctive, naturelle. Mourir ne signifie pas perdre la vie physique, quoique, il est évident que si je me replace sous l'esclavage de la drogue, de l'alcool, du tabac, de tout ce qu'on peut imaginer,
il y aura des incidences physiques. Mais ici, ce n'est pas le sens de mourir physiquement, ni perdre son salut, mais cela signifie passer à côté de la vraie vie en Jésus-Christ. Ça me fait penser à ce cas d'école. Vous serez d'accord avec moi, mais c'est un peu comme un couple dont chaque conjoint continuerait à vivre en célibataire. Ils sont mariés tard, alors ils continuent à vivre un petit peu. Ils ont pris des habitudes et ils continuent de vivre un peu comme s'ils étaient encore célibataires. Et à ce moment-là, ils passeraient à côté de tous les privilèges du couple, qui sont nombreux, malgré les inconvénients qui existent aussi parfois. Hein, on est bien d'accord? L'Esprit Saint est en nous et avec nous, alors pourquoi s'en priver? Est-ce que nous ne nous privons pas du Saint-Esprit? C'est une bonne question, non? Chaque jour. Est-ce que nous faisons appel à lui, par exemple, pour la compréhension de l'Écriture? Est-ce que nous faisons appel à lui pour une dose d'amour supplémentaire pour notre prochain? Est-ce que nous faisons appel à lui pour nos prières, pour qu'il intercède? Il le fait, en principe, etc. Est-ce que nous sommes dépendants du Saint-Esprit? Pourquoi s'en priver? Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous connaissez bien Jean 15, verset 5. Mais vous savez par qui il a été remplacé, Jésus? Par le Saint-Esprit, ici-bas, n'est-ce pas? Jésus, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais ici-bas, c'est l'Esprit qui remplace Jésus. Donc nous pourrions facilement transposer en disant « C'est exactement pareil, sans l'Esprit-Saint, je ne peux rien ». Est-ce que nous sommes convaincus de cette vérité-là? Romains 8, verset 6, « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit Saint tend vers la vie et la paix. N'avons-nous pas cette soif de vie et de paix divine? Nous, créatures de Dieu, sauvées par la grâce, sauvées par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus sur la croix, est-ce que nous avons cette soif de vie et de paix? Chercher à plaire à Dieu par une obéissance légaliste ne peut que conduire au tourment et à une foi moribonde, triste et infructueuse. En fait, c'est jamais assez. Vous faites, vous faites, vous faites, vous faites pour plaire à Dieu. C'est jamais assez. Alors que Dieu a un programme pour nous. Dieu a un programme. Dieu a un plan pour nous, nos vies, pour nos journées. Et vous savez, je vais vous dire un secret, Dieu n'a pas toujours besoin de nous. Et vous savez, des fois, nous, on se considère le centre du monde et on imagine qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire pour plaire à Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'a pas forcément toujours besoin de nous, mais il aime bien se servir de nous. Et on a des journées plus remplies que d'autres, n'est-ce pas? Mais l'important, c'est de faire ce que Dieu veut dans notre journée. Ça n'est pas de faire 48 heures sur 24. Et des fois, nous, on est un peu comme ça. On veut faire, 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 puis un jour, on est sur les rotules. On se dit, tiens, il y a un problème. Il y a un petit problème. Laisser l'Esprit Saint conduire chaque journée, c'est découvrir les œuvres préparées d'avance par Dieu afin que nous les pratiquions quand il veut et comme il veut, parfois même à notre insu, et donc pour sa gloire seule. Et notre corps dans tout ça, Romains 8, 10, 11. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Votre corps n'a pas lieu d'être méprisé, même une fois poussière, il va rejaillir, ressuscité. Il a toute sa valeur. En attendant, il nous faut faire mourir les manières d'agir du corps, manipulées par le vieil homme, naturellement pécheur, instinctivement pécheur. Et c'est ça notre contribution. C'est empêcher le chat d'aller manger les oiseaux, en quelque sorte. Cela implique des choix concrets. Et nous avons j'ai trouvé des exemples dans Colossiens 3, mais on peut en trouver ailleurs. Il dit par exemple, c'est Greg qui nous avait rappelé ça il n'y a pas longtemps, « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Littéralement, préoccupez-vous des choses d'en haut. C'est vrai que quand on travaille, quand on a des enfants, quand on a différentes choses à faire, c'est pas toujours évident, hein, de se préoccuper des choses d'en haut. Mais le faisons-nous quand même dans ces limites-là. Verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, Il cite l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, qui ne sont pas évidemment les passions du sport ou de la musique, hein. C'est plutôt les émotions incontrôlées de notre vieil homme. Les mauvais désirs, ça touche beaucoup à la convoitise. Et la soif de posséder, ça peut être possession de biens, voire de personnes. Et ça, c'est une idolâtrie aux yeux de Dieu. Donc on comprend pourquoi il n'en veut pas. Verset 8, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, ne vous mentez pas les uns aux autres. Ça, ce ne sont que quelques exemples. Mais c'est vrai que quand on aime le Seigneur, on ne peut que tomber accidentellement dans ces choses. Et malheureusement, je sais que moi-même, ça m'arrive. Mais par l'Esprit Saint, on va finir par perdre l'intérêt pour ces choses. Tout naturellement, enfin tout spirituellement plutôt. Oups, non, non. Ouh. Pourquoi il est allé? Pourquoi on m'a enlevé la fin, là? Ma conclusion. Je veux ma conclusion. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà. Ah. Romains 8, 12. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Nous ne devons rien à notre vieil homme et ne pouvons rien attendre de lui. Parole vivante, qui est une traduction de M. Alfred Kuhn, nous dit plus en détail, nous ne sommes plus tributaires ou victimes de nos instincts. Parfois on va dire, oh c'est mon tempérament, oh c'est mon caractère. Non, non. Maintenant nous sommes dans un nouveau régime, dans un nouveau statut, avec l'Esprit de Dieu. Et donc nous sommes libres aussi par rapport à ça, même s'il nous arrive d'être piégés par notre vieil homme. Nous ne sommes plus tributaires de nos instincts, nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce que notre nature pécheresse exige de nous, ou essaie d'exiger de nous. Nous sommes libres en Christ et libres par l'Esprit de Dieu. Nous sommes passés de l'ancien régime au nouveau, la plus grande révolution de tous les temps. Nous avons un nouveau statut, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes des enfants de Dieu, des fils adoptifs, des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes enfin capable de plaire à Dieu. Retenons l'exhortation de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Prions. Vous pouvez couper la conclusion. On va prier un instant. Seigneur, merci. Merci pour ton plan merveilleux. Merci Seigneur d'avoir changé de régime. Merci d'avoir changé notre statut. Merci de nous offrir la possibilité de changer continuellement de comportement par ta grâce, par l'action de ton esprit en nous. Merci pour le Saint-Esprit. Tout à l'heure nous chantions « Viens Jésus », mais tu es en nous. Nous n'avons pas besoin de te dire « Viens ». Tu es en nous, et c'est à nous de te laisser régner. Alors, oui, comme le dit un autre chant, règne en nous, règne en moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.